Phenomenal welcome, and I'll just say power to the people. And another mantra or slogan that we say is free them all.
Ok, j'aimerais vous exprimer humblement à quel point je suis content et honoré d'être parmi vous. Et j'aimerais vous exprimer aussi mon soutien. Et en commençant par deux expressions, c'est pouvoir pour le peuple et on est ensemble.
Right on. I've been known as speak relatively fast, so we about to put our interpreter to work today.
Il dit qu'il a l'habitude de parler vite et qu'il va essayer de me challenger là-dedans, mais je raconterai exactement ce que je veux et tu sauras pas que je raconte ce que je veux.
He might retire from this translating after the day.
Et que je risque d'être fatigué à la fin de la journée.
I'm honored and humbled to be here today. I feel fortunate to have fallen from the tree of two freedom fighters, that of Chairman Fred Hampton and also of Akua and Jerry, formerly known as Deborah Johnson.
Je suis encore une fois très honoré d'être parmi vous aujourd'hui et je suis encore plus honoré d'être aussi aujourd'hui le représentant et l'héritier de deux personnes exceptionnelles, Fred Hampton, son papa, et Deborah Johnson.
I don't want to draw any foregone conclusions that people know the details of what happened to Chairman Fred Hampton. And our position is that we be politically correct and that we use brutal terms for brutal realities. Chairman Fred and Defense Captain Mara Clark were assassinated by the United States government December 4th, 1969.
Je vais faire l'hypothèse que tout le monde n'est pas au courant de la manière dont mon père et d'autres activistes ont été assassinés en 1979.
My mother to be, who had just turned 19 years old, was 8.5 months pregnant with me at the time when she literally felt the shells, the bullet shells from the Chicago Police Department fired into the mattress of the home. And the Chicago Police Department, prior to Chairman Fred being assassinated, they pulled her out of the room, opened her bathrobe, and jammed a police department revolver to her pregnant belly. And when I speak about that, I say that the prenatal care, that I was subjected to, as opposed to a doctor's stethoscope, the first piece of steel I ever came into contact with was the Chicago Police Department's revolver. That was December 4th, 1969.
OK. Donc, quand... je suis désolé, je suis un peu... Je ne savais pas ça, en fait.
OK.
Donc, quand la police est arrivée devant chez eux à Chicago, la première expérience qu'il a eue, c'était encore dans le ventre de sa maman. Et la première expérience qu'elle a eue avec la police de Chicago, c'est de recevoir des balles de leur part. Et qu'à l'intérieur du ventre de sa mère, à 8 mois et demi de grossesse, le premier contact qu'il avait eu avec les autorités, c'est l'acier du revolver pointé sur le ventre de sa mère.
It would be ideal if we could, on the first part, go there, to add insult to injury, my mother-to-be and the remaining survivors, they were given false charges and they were placed in jail. And I was subsequently born 25 days later after the assassination of Chairman Fred Hampton.
Il est né 25 jours plus tard après l'assassinat de son père, et non content de l'avoir blessé pendant qu'elle était encore en rémission, pendant qu'elle était encore en train de subir des soins, ils ont accusé sa mère, en plus des insultes et en plus de la violence qu'elle avait subie, ils l'ont chargée avec des charges criminelles qui étaient indues et injustes.
It would be ideal to say, to speak about that in some sort of abstract or disconnected way in how bad things used to be in regards to African people in the United States and abroad.
Ce serait facile d'avoir un regard distancié, de prendre un peu de perspective et de considérer que c'est une autre réalité, cette violence que l'on subissait dans les années 60-70.
But the reality is that same, what we refer to as police terrorism, that same police terrorism that we were subjected to then, we still, our communities are still subjected to that same police terrorism to this day.
Mais la réalité, c'est que la même forme de terrorisme policier dont nos parents étaient victimes à cette époque-là, dont nous étions victimes à cette époque-là, reste encore prégnante et que nous subissons encore aujourd'hui.
Though in the United States and in other places, we've seen a number of examples of neo-colonialism, black faces placed in high places, including the former U.S. president of America.
Et encore aujourd'hui, il y a une forme de colonialisme dans le fait d'utiliser les symboles et la couleur noire et une nouvelle forme de colonialisme, et ça se voit y compris dans l'utilisation politique qui a été faite du précédent président américain.
As Malcolm X said that America's democracy is an hypocrisy. It's a facade of freedom that allows for the U.S. to have an arrogance to even ask if Cuba has political prisoners.
Ouais. Et que, en fait, il aimerait reprendre la citation de Malcolm X qui disait que la démocratie américaine est aussi une forme d'hypocrisie. Elle a une façade sous les auspices des libertés fondamentales et du discours démocratique, mais dans le même temps, elle a une beaucoup, bien grande facilité à dénoncer Cuba et les prisonniers politiques qui y étaient sans avoir un regard critique sur elle-même.
The tombstone Chairman Fred Hampton is buried at is shot up annually, every year, by law enforcement to this day. There still remain a number of political prisoners in what we refer to as these modern-day concentration camps.
Et aujourd'hui, il y a une utilisation qui est faite de la tombe où Fred Hampton est enterré, et elle rappelle aussi, à travers lui et à travers les autres, qu'il y avait comme une espèce de camp de concentration vis-à-vis de ces prisonniers politiques et de ces cibles politiques dont son papa faisait partie.
I nor the organization that I chair, the Black Panther Party Cubs, we do not take this for granted, the opportunity to be able to form these coalitions and speak about what's really happening in the United States.
Attention, l'association que je représente, le club des Black Panthers, ne prend pas pour acquis le fait de pouvoir se réunir et le fait de pouvoir se retrouver pour parler de notre condition.
I recognize that whether it be France, Brazil, and particularly the United States, that the ruling class is Machiavellian, is creative with putting out a propaganda that everything is okay and everything is going good. In these different places I mentioned.
Ouais. Et il y a la volonté de la part de certaines élites américaines de présenter un discours qui va minimiser, minorer, et qui va expliquer qu'au bout du compte, mis à part quelques débordements, tout se passe bien dans les couches populaires et dans les secteurs où ces communautés sont présentes.
In the U.S., in particular, the propaganda that's put out, not just by the mainstream, but the various outlets, such as the music industry, so on and so forth, it's an attempt again to say that to continue the propaganda. This is the land of the free. That whoever works hard, they can make it. But we want to leave here recognizing the fact that there are still colonized communities and that front line on that war that is waged on our people. Their front line is the police. That is, our communities are occupied, and we want to really stress the fact that though it has been turned a war on drugs, a war on guns, a war on gangs, in reality it is a war on our people.
Ok. Et donc, il y a une volonté de produire une propagande, que ce soit dans les médias mainstream, mais aussi à travers des vecteurs culturels, le cinéma, les séries et la musique en particulier, selon laquelle, en fait, les États-Unis seraient cette terre de liberté. Et dans cette terre de liberté, celui qui travaille très dur va réussir, va avoir accès à des ressources. Mais j'aimerais insister ici sur le fait qu'il y a une dimension encore profondément coloniale à cette organisation-là et à l'expérience de vie qui est la nôtre. Et il y a une guerre qui est menée. Et dans cette guerre, nous sommes en première ligne. Et cette guerre-là, ceux qui sont en face de nous en première ligne, c'est la police, et qui se sert de nous également comme cible.
We're in a bad but good stage, being that we just come off the heels of an administration that used terms like post-racial society, and you had articulate representatives of U.S. imperialism, such as Barack Obama, to dismiss the question of what's really going on.
Et on vient de terminer une séquence historique avec l'administration Obama, et on avait là un typique exemple de personnes qui sont capables d'articuler de manière très éloquente dans un discours l'idée qu'on serait dans une société post-raciale, et qu'au bout du compte, ces questions-là, elles étaient résolues. Et ils voudraient s'inscrire en faux avec ça.
Even with the arrogance of the Trump administration, we say the old saying, the emperor has no clothes.
OK. Alors qu'avec Trump qui a été élu, même avec sa brutalité, on peut reprendre l'expression « l'empereur est nu ». En quelque sorte, son discours et la brutalité de ce discours a rendu explicite le racisme que Fred dénonce depuis tout à l'heure.
The type of responses we see now in regards to the police terrorism, in particular with the case of Mike Brown in Ferguson, is a different dynamic, a different situation prior to that, when the state would, after the police murdered someone, the state's machine was sending its spokespersons, such as the Reverend Al Sharpton and the like, they would send them in to confuse the people and to be political firemen, to water down any potential resistance.
Et il s'est passé quelque chose de décisif et de significatif avec l'assassinat de Mike Brown et les mobilisations à Ferguson, c'est que jusqu'à ce moment-là, quand un officier de police tuait un homme noir ou une personne de couleur, ils envoyaient des porte-paroles et des gens qui étaient censés apaiser la population, utiliser un discours pour pacifier en fait toute forme de mobilisation qui dénoncerait ça.
We're experiencing a climate where the people are speaking on their own terms, their fight for their struggle for self-determination. And that is so important that we be able to speak on our own terms.
Et maintenant, on est dans une période nouvelle où les personnes, et nous en premier lieu, sommes capables de parler avec nos propres mots, organiser nos propres mobilisations, et ça c'est quelque chose de décisif et d'important.
We refer to Ferguson as Mike Brown Town, and we echo the sentiments of Commandante Ernest Che Guevara, when he said, let there be 1,000 Vietnams, our position was, it remains to be, let there be 1,000 Fergusons, 1,000 Mike Brown towns.
Et donc, après ce moment-là, Ferguson, il se référait à cette ville en l'appelant la ville de Mike Brown Town. Et il se réfère également à Che Guevara, qui, pendant les guerres du Vietnam, pensait qu'il fallait se servir des villes comme d'un symbole à travers ce qui s'y était passé.
We think it's important that when we talk about police terrorism, that it's not detached from the machine of imperialism, that it's everything inclusive of how the media reports it, the terms, how they criminalize the victim. In fact, Malcolm X said America is genius with making a criminal appear to be the victim and the victim appear to be the criminal.
Et donc, lorsqu'on parle, et c'est l'expression sur laquelle il revient parce qu'elle est importante, et Ibrahim développera un petit peu plus tard, quand il parle de terrorisme policier, il faut replacer ça aussi dans des dynamiques impérialistes beaucoup plus larges. Et ça se voit jusque dans le traitement journalistique de ces sujets, dans la volonté de criminaliser les victimes, dans la volonté de les mettre en cause. On voit ici une illustration de ce que Malcolm X disait quand il disait que ces génies de la communication, ils feraient passer des injustes pour des héros et des innocents pour des coupables.
This machine that we're speaking about is inclusive of continuous harassment of the family members of those that the police kill. It's inclusive also of the government creating and funding what we call GMO organizations, government-made organizations.
Ouais. Cette démarche impérialiste et cette démarche politique qui vient couvrir et légitimer les violences policières et les crimes, elle va jusqu'au fait de harceler, mettre en cause, criminaliser les familles des victimes. Et donc cette criminalisation, vous l'observez également en France, mais ce que Fred a ajouté, c'est que ça va jusqu'au fait que le gouvernement va créer ce que Fred appelle des GMOs, des organisations, y compris au sein de la société civile, qui sont créées par le gouvernement justement pour remplir cette fonction.
This is to take away any authentic resistance. And I'm sure that abroad, outside of America, that many of the organizations and individuals, in fact, entertainers and athletes, who the state puts up as our spokesperson, I'm sure that many people throughout the world have been misinformed about, you know, who's actually speaking and addressing these issues of police terrorism.
Et donc, à travers ça, à travers cette occupation du terrain et cette confiscation de la parole, ça porte préjudice à nos luttes parce que la manière dont sont représentées nos luttes nous dépossède. Et je suis certain que, à travers les vecteurs sportifs et culturels que les États-Unis exportent à l'étranger, eh bien ces personnes-là tiennent un discours qui, au bout du compte, passe sous silence la violence de ce que nous vivons.
I want to stress that though we are outfunded, outresourced, there is real deal resistance happening on the ground, and we want to struggle to make some concrete connections with the resistance that we assure that is happening throughout other colonized communities.
Alors c'est vrai que on manque de ressources financières et on manque de ressources humaines, mais soyez certains que on a des vraies formes de résistance sur le terrain. Et si je suis là aujourd'hui, c'est parce que j'aimerais qu'on établisse aussi des formations et des connexions réelles et concrètes entre nos mobilisations de part et d'autre de l'Atlantique.
Right on. Right on. Right on. Right on. Right on. I'm gonna close out. I don't know if we have a question to answer period, but I want to close out. Definitely want to the cases of the Richard J. Richards and Ronald Johnson, Rekia Boyd, and list goes on and on. But a major campaign that we've been working on for quite some time is the African Anti-Terrorism Bill. And this is what we say, taking a phenomenal discussion about terrorism and putting it in its correct context, that we say people who have been subjected to terrorism under such euphemisms as slavery, sharecropping, or even Polish brutality. We say Polish brutality is a euphemism. Let's struggle to use brutal terms for brutal realities. Call it what it is, police terrorism.
Et j'aimerais insister en revenant au cas de deux victimes récentes de ces meurtres, en replaçant le sens des mots et le sens réel des mots. C'est incroyable comme les groupes de domination ont une façon de se réapproprier les termes et de les recoder à leur avantage. Et ils ont, lorsqu'il s'agit de la violence qui nous vise, une capacité à euphémiser les concepts. Donc quand on assassine un homme noir, on parle de brutalité policière, comme en France ici on parle de bavure pour euphémiser cette violence-là. Et j'aimerais réclamer ce terme, j'aimerais qu'on parle très justement de terrorisme de la part de la police et pas simplement de dérapage ou de bavure.
As Minister UAP Newton stated that the state recognizes the importance of euphemisms, everything from them in their colonial schools saying that Columbus discovered America, to the term, how they refer to the police as serving and protecting. We must struggle to use brutal terms for brutal realities, as opposed to saying terms like gentrification. We call it what it is, a land grab.
Okay. Et donc, cette forme d'euphémisme et cette forme de recodage des mots va jusque dans les livres d'histoire. Par exemple, on va nous expliquer que Christophe Colomb a découvert les États-Unis d'Amérique, a découvert l'Amérique. Mais nous, on a fait le choix d'utiliser des termes brutaux pour des réalités brutales. Et lorsqu'on parle, par exemple, de concepts comme la gentrification, vous savez, c'est ce process à travers lequel des familles bourgeoises vont s'approprier et s'acheter des appartements dans des quartiers qui étaient jusque-là populaires et marqués ethnoculturellement, eh bien, nous, on va parler de prise de possession du territoire plutôt que de gentrification.
When someone is locked up, we should say that they were kidnapped, and that their bonds should be referred to as a ransom.
Et lorsque quelqu'un a été arrêté, nous on va dire qu'il a été kidnappé. Et au lieu de parler de caution, on va dire que c'est une rançon.
Va donc. The various forms of drugs that are flooded through our communities, whether it be crack, heroin, what have you, should be referenced as chemical biological warfare waged on African and other colonized communities.
Et lorsque... Vous pouvez applaudir, excusez-moi. j'ai vu que j'avais bloqué la dame, j'ai dit je vais attendre. Donc, et lorsqu'on voit toutes sortes de drogues qui circulent dans nos communautés, que ce soit du crack, de l'héroïne ou de la cocaïne, il ne faut pas s'y référer sous forme de drogue, mais plutôt de parler d'armes chimiques qui visent notre communauté.
Va donc. Even the type of music and the TV shows that are flooded through our community should be referenced as propaganda bombs.
Et même les séries télé et les films qui nous visent, ce n'est pas des séries télé ou des œuvres artistiques, c'est des bombes de propagande.
Ouais, non. Sun Tzu said in the Art of War that the cardinal principle of warfare is to know thyself and know thy enemy.
Sun Tzu, dans l'art de la guerre, explique que le principe fondamental et la devise fondamentale de l'art de la guerre, c'est de se connaître soi-même et de connaître son ennemi.
Right on. That's, we recognize that we are going against all odds, but we, for us not to fight back, for us not to organize, it can be defined as nothing less than what Minister UEP Newton referred to as reactionary suicide, and we refuse to commit reactionary suicide.
Et c'est vraiment important. Dans une situation pareille, le fait de ne pas s'organiser, même si on sait que c'est difficile, même si on sait que les chances sont très faibles, le fait de ne pas s'organiser, le fait de ne pas se mobiliser est défini comme un suicide réactionnaire. Et on ne va pas se suicider.
Right on. Again, I'm honored. We are honored on behalf of the Black Panther Party Cubs, the organization that's carrying the legacy of the Black Panther Party. We say it's a tough act to follow, but we commit to try our best to walk not in their footsteps, but in their Panther paw steps.
En tant que héritier, en tant que club des Black Panthers, on s'inscrit dans la dynamique et dans le travail et dans l'héritage de ce qu'ont fait les personnes qui nous sont précédées, mais on n'essaie pas nécessairement de répliquer, mais de marcher fidèlement sur leur chemin.
Right on. In the spirit of internationalism, we say our mantra, we say what's our call, free them all, power to the people.
Liberté pour tous, liberté pour tous.
Right on.
C'est que Amal Bentounsi, c'est une militante C'est devenu une militante. Elle a 4 enfants. Bon, je ne vais pas dire son âge parce qu'elle va mettre un coup de... Mais bref, elle a 4 enfants et en fait, elle a repris les études il n'y a pas très longtemps. Elle s'est inscrite en capacité de droit après des années. Parce que tout ce combat-là lui a donné envie de retourner sur les bancs de l'école et puis aussi d'acquérir cette arme qu'est le droit pour pouvoir continuer à travailler sur la question des violences policières et sur la question des crimes policiers. Elle vient de passer ses partiels cette semaine. Faites du bruit, on lui souhaite bonne chance.
Just her brother has been killed, and she has 4 kids, and she just restarted her studies in legal work so that she can help victims.
Okay. It's Amal Bentounsi. She co-founded the collective Emergency Our Police Kills People.
I think I will translate it. I think I will translate it.
His brother was her brother was killed in 2012, and she began to work against police crimes and police brutality and racial profiling and so on. And we just said that she has 4 children. She decided like a few months ago to come back to school to learn law. She wants to become a lawyer to sue the state for its violence and for its racism. So please welcome Amal Bentounsi.
Ben bonjour à tous. Merci pour cette invitation. C'est un honneur pour moi d'intervenir à cette table ronde avec tous ces militants et notamment Fred Hampton. Aujourd'hui, je voudrais qu'on ait une pensée pour la famille d'Ismaïla Day, qui est décédée cette semaine, qui a été... écrasé par la police, par une voiture de la police.
On va faire des petites séquences pour que Maron puisse traduire pour
Okay.
Okay. Okay, so I'm very honored to be here among militants and activists, and especially Fred Hampton. Just before starting, I would like us to take a moment to think about Ismaïla Day, who's been run over by a police car this week.
C'est aussi l'anniversaire de la mort de Curtis, ce jeune homme qui avait été percuté par une voiture de police aussi alors qu'il roulait en quad. Donc aujourd'hui même, il y a une manifestation dans sa ville. Je n'ai pas pu m'y rendre puisque je suis là avec vous aujourd'hui. Mais en tous les cas, j'ai une énorme pensée pour sa famille et pour le combat qu'elle mène.
It's also the sad anniversary of the death of Curtis, who too has been run over by a police car. And right as we speak here, there is a demonstration in his city, but I cannot attend right now because I'm here with you. And I'd like to express solidarity and hope for his own family.
Une pensée pour toutes les autres familles en lutte, dont je ne pourrais citer tous les noms aujourd'hui, parce que je sais ce qu'elles vivent, parce que je suis passée par là aussi. Mon frère a été tué en 2012 par la police. Au départ, c'était le client parfait. Amine a été le plus jeune prisonnier de France à l'âge de 13 ans. Et depuis, il a subi cette répression dans le quartier où on vivait. Et il était la cible de ces policiers jusqu'à en 2012, où il a été assassiné une deuxième fois d'une balle dans le dos.
Yeah, so I'd like to think also about all families who have lost someone to the police, and I know what they are going through. Why? Because my little brother died in 2012, and before he died, actually through a bullet by the police, he was already the target of the police. He was, between brackets, the perfect client for the police. He was the youngest prisoner in France because he was put and sent to jail when he was only 13 years old.
Au départ, quand on a annoncé ça à travers les médias, un court instant, j'ai cru que mon frère avait déconné et que, effectivement, on parlait de fusillade. Donc, qui dit fusillade dit échange de tirs. Donc, je me suis dit, mon frère a joué le con, il a perdu, il est mort, malheureusement, c'est comme ça.
For a very brief moment, when I saw what happened on the news, they were talking about an exchange of fire. They were talking about a shooting. And when we say shooting, we say that there was a mutual exchange of fire. So for a very short moment, I considered the idea that maybe my brother was involved. Maybe my brother did something wrong and something bad happened to him.
Et là, une forte intuition, et je me dis, c'est pas possible. Mon frère, j'ai toujours essayé, tout au long de sa vie plus jeune, j'ai essayé de l'aider, j'ai essayé à ce qu'il s'en sorte. Effectivement, c'était difficile pour lui. En tant que jeune garçon issu de l'immigration post-coloniale, de s'en sortir, puisqu'il avait ce lourd passé derrière lui, la prison à l'âge de 13 ans. Et je me souviendrai... très précisément, il y a quelques années de cela, quand je l'avais eu au téléphone, alors qu'il était à la maison d'arrêt de Châteaudun, et qui me disait, Amal, prends un stylo et écris. Et je lui dis, qu'est-ce que j'écris ? Il me dit, je vais te raconter mon histoire. Mon histoire, voilà. Tu te rends compte ? Ils m'ont assassiné, ils m'ont mis à l'âge de 13 ans. Et effectivement, à l'âge de 13 ans, parce qu'il avait brûlé une poubelle et qui avait pris feu une partie dans un bâtiment, dans une école maternelle où il n'y avait personne, mais ça a été considéré comme un incendie criminel et ce juge n'a rien trouvé d'autre à faire que de le mettre à Fleury-Mérogis. Il a écopé de 6 mois de prison ferme et de là, il m'a dit « tout est parti de là ». Et je me souviendrai toujours, en 2010, il me dit « Ouais, j'espère que tu écriras un livre sur moi. » Et je lui dis « J'ai trouvé le titre de ton livre. » C'est ce petit frère qu'on assassine. Et là, il m'a dit, ouais, ils m'ont assassiné. Tu te rends compte, à 13 ans, ils m'ont mis en prison.
Okay, so when after this small moment where I had a doubt, I had a deep feeling, I had a deep emotion, because I knew who my little brother was. I spent all his childhood trying to upbring him, trying to educate him, so that he gets a chance in life. And when he has been arrested for the first time when he was 13 years old and he's been sent to jail. You know what he was sent to jail for? He burned a trash bin in a deserted school where no one was, so there was not any danger. It wasn't a major offense. But the judge found nothing else to do but to send him to jail. And when he was sent to jail, he wrote to Amal and said, hey, you should write. Take a pen and write. Write my own story and I will tell you everything. And so later on, Amal was calling her brother, and she said, I think I found the title of the book. It will be The Way They Killed My Brother. And the little brother said, indeed they killed me, because they sent me to jail because when I'm 13 years old.
Oui.
Et tu l'écris à ta manière, parce que tu as aussi poursuivi un long combat judiciaire, 5 ans, contre l'État français, contre la police, pour avoir tué d'une balle dans le dos ton frère. Qu'est-ce que tu peux nous en dire de ce combat ? Victorieux d'ailleurs, parce que je rappelle que tu as fait condamner le policier qui a tué ton frère.
ce combat, il a été long et douloureux, mais ça m'a permis de me reconstruire, parce que comme je le répète à chacune de mes, interventions, c'est un combat qui m'a permis de ne pas devenir un monstre, en fait. Parce que silencieusement, je me transformais, j'en parlais à personne, mais j'étais déterminée. Et cette détermination, je l'ai voulu non pas uniquement pour rendre justice à mon frère, mais pour rendre justice à tous ces petits frères qui meurent entre les mains de la police assassine. Et effectivement, à la création du collectif Urgence Notre Police Assassine, ils ont été beaucoup à avoir peur de ce nom, parce que je voulais rentrer dedans. J'avais, je ne sais pas, une espèce de force qui m'animait. D'ailleurs, quand je revois certaines vidéos de ce que j'ai pu faire face à ces policiers, je me dis, mais où t'as été chercher la force? Donc c'est inexplicable, mais en tous les cas, j'étais déterminée à rendre justice et à devenir, comme j'ai pu le dire à de nombreuses reprises, comme un poison dans la vie de ces policiers et de les traquer, de les suivre, de monter une page Facebook, de rien lâcher, d'aller voir des familles, les conseiller et de leur donner cette énergie que j'avais pour ne plus se laisser faire et pour réclamer la vérité et la justice. Et voilà, depuis 5 ans, on m'a soutenue. Au départ, on était très peu. Je remercie vraiment tous les militants qui ont été présents à nos côtés, à mes côtés, mais aux côtés de toutes les autres familles. Et ça nous permet de continuer le combat, même si aujourd'hui, j'ai obtenu la justice pour mon frère. Il en reste d'autres et j'espère que ça ouvrira la voie à d'autres familles qui réclament encore justice. Donc j'ai une pensée pour la famille de Wissam El Yamni, de Amadou Koumé, de Adama Traoré, de Mamadou Marega, il y a beaucoup de noms et vraiment je tiens à ce que vous continuez à soutenir ces familles parce qu'on en a vraiment besoin, on a besoin de votre énergie et de votre force.
Okay, so this 5-year battle I had to take through courts and all these years, sometimes I wonder when I go back how I went through this. At the beginning, I realized that I had to take this battle if I don't want to become a monster. And so going through this battle, having recognized the injustice and the murder of my brother was also a means of salvation for me. But going through this, I also realized that my brother was not the only one person affected by this. I was not the only family affected by this. There were many other victims and many other brothers and sisters who have been affected by this. So I sought support from them, and I sought support for them, and I sought support with them. And through this, we built this organization, which is called Urgence Notre Police Assassine, Emergency. Our police is killing us. And at the beginning, the name of the organization was shocking, but I wanted something shocking, so that people realize the gravity and the intensity and the brutality of what we were going through. And so if I was to wait for justice, if I had a doubt about maybe justice to come, then I would become the poison in the life of these police officers who killed my brother. I would follow them, I would sue them, I would criticize them, I would expose them through a website. And through this, at the beginning, we had humble beginnings, but through this, finally, we obtained victory. But now that we obtained victory for my brother, I realized that the fight is not over because there are many more victims, and the names of these victims is still going on a list that will never end until we do something about it. Maintenant, j'aimerais utiliser juste mon privilège de traducteur pour te dire un truc, Amel. Tu n'es pas juste en train d'écrire ton histoire. Tu n'es pas juste en train d'écrire l'histoire de ton petit frère. Tu es en train d'écrire notre histoire à tous. Et j'espère que tu le comprends, ça. J'espère que tu comprends que...
J'espère que tu comprends qu'à travers ta capacité à te dépasser, à dépasser ce que tu as souffert, à répondre à la justice, non pas avec une autre injustice, mais à travers un combat pour la dignité et par ta détermination, t'ouvres le chemin pour des milliers d'autres personnes qui se disent « je me le suis dit en t'écoutant, que l'être humain, il vaut mieux que ce qu'il montre de lui. » Et des fois, quand je vois mes filles grandir, étudier, je leur montre « voilà, tu vois, c'est ça une sœur comme ça. C'est ça une sœur comme ça, et c'est à ça que ça ressemble à un être humain. » Merci, Amal.
Merci. Je vais rester sur les compliments. Voilà, je voudrais juste vous remercier et sachez que vous m'avez donné beaucoup de force. Et cette force-là, j'essaye de la transmettre comme je peux aux autres. Et vraiment, le combat continue. Soyons unis et non pas divisés. Quelles que soient les divergences des uns et des autres, le combat est beaucoup plus important et c'est sur ça qu'on doit se concentrer et non pas sur des futilités. Voilà, le combat continue, justice pour tous, justice pour Amine, justice pour Abdoulaye Camara, justice pour Hamidaye Tunga, toutes ces familles que j'ai oubliées, justice pour Angelo Garand, justice pour Ali Ziri. Vraiment, quand je parle de ces hommes et femmes qui sont morts entre les mains de la police, c'est l'histoire de mon frère, mais c'est l'histoire que Amine détestait la justice, et je lui rends hommage, et vraiment merci, merci.
Merci beaucoup, merci à tous. Est-ce que tout le monde m'entend bien? Oui? Alors, première chose, est-ce que vous avez déjà entendu le terme Mi'kmaq? Mi'kmaq, à part juste à l'instant. Donc, Mi'kmaq, dans ma langue maternelle, ça veut dire fraternité. C'est un terme, donc en fait, je vous remercie d'être de votre accueil et de votre fraternité, qu'on puisse tous se rassembler solidairement aujourd'hui, venant de parcours différents, d'horizons différents, et de se rassembler dans une cause qui est commune. Est-ce que vous avez déjà entendu parler des termes indiens d'Amérique ou même indiens amérindiens? Oui? Alors, on va mettre quelque chose au clair très, très vite. Ces termes-là, justement, il y a une importance dans la façon dont on nomme les gens, dont on nomme les choses. Ces termes-là sont profondément racistes. Quand on utilise le terme indien ou même amérindien, on veut tous dans le sens de l'histoire du colonisateur, où en fait, premièrement, on est en Inde. Donc, tout le monde est resté d'accord avec le fait qu'on a fait une erreur historique. Et on continue comme si de rien n'était, on est bien en Inde, il n'y a pas de souci. Deuxièmement, on y va avec le mythe de la Terra Nullius. On continue avec le fait que le territoire que nous, on appelle l'île de la Tortue, est un territoire qui n'était pas occupé, que les colons ont justement, comme vous le mentionnez, que les colons ont découvert. Donc Christophe Colomb, il n'a rien découvert du tout. Des preuves archéologiques témoignent d'une présence des premiers peuples sur le territoire de l'île de la Tortue depuis plus de 40 000 ans. Donc, c'est important. Première chose, on va arrêter de parler des Amérindiens, des Indiens d'Amérique. On parle des Autochtones, c'est le thème que nous, on choisit. Et en réalité, la majorité de nos nations, on se nommait comme êtres humains. Donc, c'est seulement au contact des colons qu'on s'est mis à nous donner d'autres noms. Et en l'occurrence, dans le cas de mon peuple, on a décidé de garder le terme de Mi'kmaq, comme c'était un engagement qui nous tenait à cœur de rester une nation avec une tradition d'accueil et de bienveillance pour quiconque vient sur notre territoire traditionnel. Donc, maintenant qu'on a fait cette petite mise au point de vocabulaire, la raison pour laquelle je suis ici, malheureusement, c'est parce que l'État dont je suis autochtone me fait taire et ne veut pas qu'on parle ni de moi vivante, ni de mes disparitions, ni de mon meurtre. En réalité, mon existence même comme femme autochtone menace la mythologie nationale, ou justement, comme on parlait hier, des sous-chiens, donc justement, où les sous-chiens seraient justement ces colons blancs. Alors qu'en réalité, ben, on était quand même là 40 000 ans avant, je pense que ça a une valeur quelconque. Donc, plus particulièrement, j'aimerais vous parler de 1186 personnes. Ce sont 1186 vies volées, des filles, des sœurs, des nièces, des cousines, des tantes, des mères, des grands-mères, des êtres humains qui ont aussi droit à la dignité. 1186 femmes mortes ou disparues en 30 ans, proportionnellement, ce serait l'équivalent de 35 000 Canadiennes. Parce qu'être femme autochtone au Canada, c'est courir 7 fois plus de risques d'être assassinée que les autres Canadiennes. Près d'un quart des victimes d'homicides canadiennes sont autochtones. Les autochtones comptent pour 4,3% de la population. Vous vous rendez bien compte que c'est des proportions complètement aberrantes. Et ce phénomène ne va pas en s'amenuisant, bien au contraire. 39% des homicides ont eu lieu après l'an 2000. Près de la moitié de ces meurtres n'ont toujours pas été élucidés à ce jour. En amont, on constate un véritable cumul de facteurs de vulnérabilité, notamment la marginalisation socio-économique des femmes et des filles autochtones qui nous prédispose à des niveaux plus élevés de violence, allant même jusqu'au féminicide. Aujourd'hui, une femme autochtone a une espérance de vie de 5 à 10 fois plus courte qu'une autre femme au Canada, des revenus 30% inférieurs. Les femmes autochtones sont deux fois plus souvent monoparentales, deux fois plus souvent au chômage, trois fois plus victimes de violences conjugales, trois fois plus susceptibles de contracter le sida, cinq fois plus de risque de vivre dans un logement surpeuplé. 90% des cas de prostitution juvénile au Canada concernent des femmes autochtones. On parle de prostitution juvénile, donc de traite d'êtres humains. 90% sont autochtones. Sans surprise, on constate également une surreprésentation des femmes autochtones dans la population carcérale. 37% des femmes détenues au Canada sont autochtones. Alors, bien évidemment, les discriminations systémiques dont nous allons parler incluent le combo classique qu'on retrouve un peu partout, donc plus de surveillance, plus d'interpellations, et auquel s'ajoute la judiciarisation de problématiques qui sont en réalité socio-économiques. Alors, pourquoi les femmes autochtones en particulier? Comment on peut expliquer ce féminicide? Dans l'histoire du Canada, aucun autre groupement de population n'a subi une attaque contre les droits de la personne aussi délibérée, aussi générale et prolongée que celle dont les Autochtones, et tout particulièrement les femmes autochtones, ont fait l'objet. L'objectif de ma participation aujourd'hui, à part la clarification de vocabulaire, c'est aussi faire une mise en contexte historique de quelle est cette histoire coloniale. J'aimerais aussi exposer la façon dont les femmes et les filles autochtones sont non seulement sous-protégées par la police, mais également la façon dont certaines font l'objet d'exactions policières pures et simples. Et enfin, j'aimerais traiter des lacunes, des mécanismes de contrôle disponibles pour les abus commis par les policiers. Donc finalement, on ne va pas du tout parler de ça, parce qu'on met ça de côté. 5 minutes, oui. Donc, un élément qui me semble important, et peut-être que je vais profiter des 5 minutes qui me restent pour me concentrer là-dessus, c'est l'histoire précoloniale. Parce que le problème du colonialisme, c'est que ça nous amène à nous concentrer juste sur la relation aux colons et finalement oublier nos traditions et nos identités comme telles. Alors, je vais me permettre un petit retour historique. Justement, avant que la conquête vienne briser les structures sociales autochtones, les femmes étaient des pivots dans leur communauté. Ce n'était pas nécessairement un Éden d'égalité entre les sexes, mais tout un pan du pouvoir politique et social était attribué aux femmes. Les nations iroquoises, par exemple, étaient matriarcales. Les femmes autochtones pouvaient posséder la terre, la transmettre à leurs filles, diriger des cérémonies religieuses, organiser l'activité agricole et la vie du village, bâtir des habitations, conseiller le chef, être chef de leur nation, sans compter, et attention, la liberté amoureuse des femmes à choisir leur partenaire. Liberté qui a été perçue, on s'en doute bien, comme de la débauche par les missionnaires chrétiens. Dans ma nation, par exemple, les connaissances scientifiques et médicales étaient transmises de façon intergénérationnelle et égalitaire, de la grand-mère à son petit-fils, qui à son tour, comme grand-mère, transmettait ses connaissances à sa petite-fille. Mon arrière-grand-mère a ainsi reçu les enseignements de son grand-père et est devenue médecin dans sa communauté. Pécheresse par le simple fait d'être une femme instruite, mon arrière-grand-mère a été ainsi victime d'une véritable chasse aux sorcières qui l'a amenée à l'exil. Une femme instruite était déjà un oxymore aux yeux des hommes blancs de l'époque. Elle ne pouvait être qu'une sorcière. Quelques années avant la naissance de mon arrière-grand-mère, la loi sur les Indiens de 1876 avait contraint les bandes autochtones à mettre en place des gouvernements exclusivement masculins au sein des communautés. Le patriarcat européen a ainsi pris racine chez nous, aussi brutalement que la conquête a labouré nos territoires. Donc, Introduction au patriarcat et à la violence envers les femmes à plusieurs niveaux, au niveau de la gouvernance, comme je le mentionnais, également au niveau des systèmes de parenté. L'identité autochtone ne pourra plus être transmise par la mère, elle est maintenant transmise exclusivement par le père. Donc, si le père est non autochtone, l'enfant ne sera pas autochtone. C'est dans les mesures d'assimilation du gouvernement du Canada. Dans la relation au territoire, on crée des réserves et, dans lesquelles sont concentrées les populations autochtones. Elles ne pourront en sortir qu'avec un permis de sortie qui est administré par un agent fédéral. C'est le système qui a inspiré l'apartheid en Afrique du Sud. Le système de réserve au Canada, c'est un effet qui est souvent méconnu. Interdiction, évidemment, de parler les langues maternelles. Interdiction de spiritualité. Donc, aucune religion traditionnelle ne peut être pratiquée. Et également, la création des pensionnats autochtones. Il s'agit d'un système d'internat dont la visée officielle était de tuer l'Indien dans l'enfant. Ces internats sont devenus obligatoires pour tous les enfants autochtones de 5 à 17 ans. On avait plus de chances de mourir quand on est un enfant autochtone dans un pensionnat qu'un soldat canadien durant la Deuxième Guerre mondiale. Le dernier pensionnat fermé en 1996. Je ne sais pas pour vous, moi j'étais bien née, bien à l'école, même avancée dans mon parcours. 1996, c'est très récent. Ces survivants des pensionnats vont ensuite retourner dans leur communauté d'origine comme adultes, mais avec des traumatismes extrêmement graves, des deuils, des comportements agressifs, etc. On assiste à l'émergence dans les communautés de violences latérales envers les gens de la communauté, envers également soi-même, donc mutilation, dépendance, suicide également. En parallèle, on assiste aux enlèvements massifs d'enfants autochtones dans le cadre des 60 scoops. Plus de 15 000 enfants ont été ainsi retirés à leurs familles d'origine pour être confiés à des familles d'accueil blanches en vue d'une adoption et on s'en doute bien en vue d'une assimilation culturelle. Donc, ce que j'essaie de démontrer ici, c'est qu'on est dans un système bien structuré depuis plusieurs centaines d'années de racisme et de sexisme envers les femmes autochtones. Et ça crée un climat où on s'habitue à voir disparaître, à voir mourir les femmes autochtones. Et comment ces mesures sont imposées? Bien évidemment, par les forces de l'ordre, par le corps policier. Donc, dans l'histoire du Canada et notamment dans la relation des populations autochtones avec la police, la police n'a jamais été vue comme un organe de protection. Bien au contraire, c'est même le visage même de l'oppression. Dans certaines langues autochtones, le mot « police » se traduit par « ceux qui nous emmènent ». Il reste 2 minutes? OK. Donc, le racisme systémique dont je viens de vous parler, à l'origine de la société canadienne, se traduit également dans la gestion policière des cas de violence et des disparitions et des meurtres des femmes autochtones aujourd'hui. La structure même du système policier défavorise les communautés autochtones. Donc, il y a 3 niveaux de police qui ne s'entendent pas sur leur mandat, ce qui fait qu'on se retrouve dans une situation bureaucratique un peu kafkaïenne où les 3 corps policiers vont aller interroger tour à tour les familles dans le cas d'un dépôt d'une plainte qui vont devoir répéter la même histoire, raconter les mêmes faits douloureux, ce qu'on peut s'imaginer qui est extrêmement traumatisant. Manque de ressources également. Dans le cas des communautés autochtones, le nombre de ressources attribuées est vraiment inférieur aux communautés non autochtones. Dans le cas du Nunavik, on parle d'un territoire dans le Grand Nord du Canada de 444 000 km². Oui, c'est le Canada, c'est grand. Eh bien, un seul policier est capable de traiter les cas d'agression sexuelle. Un policier pour 444 000 km². Donc, vous vous doutez bien que ça crée un sentiment d'impunité pour les agresseurs. Finalement, c'est très dur de se faire retrouver si ça prend 4 semaines, des mois avant que le policier puisse même prendre la plainte. Le racisme systémique se traduit également par une forme apparente d'apathie envers les femmes autochtones, donc qui s'exprime par des lacunes et même le refus d'enquêter lors des signalements. Donc, très vite, quand il y a des cas d'agression, on va faire ce qu'on appelle du « victim shaming ». Donc, justement, c'est obligatoirement la faute de la victime. Également, dans le cas des disparitions, on va penser que ce sont des fugues ou alors que les familles ne communiquent pas bien. Donc, « Ah, vous ne savez pas où est votre enfant. On va attendre, c'est trop tôt pour lancer une enquête. » Dans le cas des meurtres, on va assumer que c'est des suicides. La même chose, donc on n'enquête pas. Et ça mène quoi? Ça mène un problème de médiatisation des cas. Comme on n'enquête pas, on ne médiatise pas le cas de la disparition et du coup, la disparition n'existe pas. Ou alors, si on les médiatise, c'est de façon groupée. Donc, il va y avoir 30 photos de femmes autochtones côte à côte disparues. Donc, on s'imagine bien que dans l'imaginaire collectif, on ne mémorise pas qui sont ces individus qui sont disparus et qu'est-ce que ça signifie pour leur famille. Donc, le problème au Canada va beaucoup plus loin. En fait, les corps policiers ne font pas seulement ne pas nous protéger, mais sont eux-mêmes les prédateurs. Un cas qui a fait vraiment un électrochoc au Québec, c'est le cas de Val-d'Or, qui est une ville dans le nord du Québec. À la base, c'est deux journalistes canadiennes d'une émission qui s'appelle Enquête, qui allaient enquêter justement sur le cas d'une disparition d'une femme autochtone, sur laquelle la Sécurité du Québec, qui est l'antenne de police provinciale, avait été informée depuis des mois, mais n'avait jamais lancé d'enquête, n'avait jamais interrogé la famille, les amis, même médiatisé le fait. Au fur et à mesure qu'elle parlait avec les gens, en fait, elles se sont rendues compte de plus en plus de femmes autochtones allaient vers elles pour se livrer et livrer leurs histoires aux journalistes. Au lieu d'un cas isolé, elles se sont rendues compte que ça avait vraiment plusieurs affaires et ça a amené un véritable tollé au Québec qui a amené la mise en place d'une enquête qui a fait la lumière sur, sur les accusations. Finalement, 37 dossiers ont été ouverts. Toutes les femmes qui sont mobilisées racontaient un même pattern d'histoire où les policiers les appréhendaient à la sortie de bar et leur disaient justement, bien, comme elles étaient présumées en état d'ébriété, les amenaient dans les voitures de police à 4 km à l'extérieur de la ville. Encore une fois, on parle du Canada, donc c'est vraiment en forêt. Parfois, il fait moins 50 degrés l'hiver. Et c'est à ce moment-là qu'ils commettaient des agressions sexuelles et physiques envers ces femmes-là. Donc, 37 cas ont été déposés. Et finalement, ce qui s'est passé, ce qui témoigne en fait de la faillite également du système de justice, c'est qu'aucune accusation n'a été retenue contre les policiers et les dossiers ont été refermés. Autre faillite, c'est justement lacune des systèmes de contrôle par rapport au corps policier. C'est un autre corps policier, un des trois dont je vous parlais, qui a enquêté sur le corps policier en question. Donc, bien évidemment, toute personne est coupable, on referme le cas. Et finalement, ces femmes qui ont eu le courage de témoigner à visage découvert et de façon coordonnée et collective ont presque parlé, du moins ont eu le sentiment d'avoir parlé pour rien, de s'être mis en danger pour rien, sans compter les peurs immenses de représailles dans des petites communautés où les gens se connaissent et se reconnaissent, bien évidemment. Donc, en concluant, justement, l'objectif ici, c'est bien sûr de ne pas m'apitoyer sur notre sort, bien au contraire. Les femmes autochtones, en commençant par l'ouest de l'île de la Tortue jusqu'à l'est, du nord au sud, ont développé des mouvements, notamment le mouvement « Idle No More », qui signifie « Fini l'inertie ». On organise des vigies tous les 14 février pour honorer, justement, les femmes assassinées et disparues, des battues pour retrouver celles qui sont disparues, des rondes de danse. Nous levons nos actions visent à revaloriser le pouvoir des femmes autochtones et également grâce aux réseaux sociaux, nous médiatisons nous-mêmes les nouvelles disparitions, racontons les faits selon nos propres voix, mobilisons la communauté pour agir pour la dignité des femmes autochtones. Grâce à nos mobilisations, le gouvernement a finalement entendu notre demande et a créé une commission d'enquête publique sur les femmes, les filles et les femmes assassinées et disparues. Toutefois, cette dernière manque de moyens et a connu plusieurs problèmes logistiques que je n'aurai pas le temps de vous exposer, mais en concluant, je vous remercie d'avoir porté attention au cas des femmes autochtones qui est souvent oublié, même aux réalités autochtones dans le cas des discussions sur le colonialisme et la décolonisation. Et j'espère que vous allez pouvoir honorer leur mémoire dans le cas de vos propres luttes. Merci beaucoup.
Ok, merci. Merci beaucoup. Et je pense que Andréane, en tout cas, a fait une bonne introduction par rapport à ce que je vais dire maintenant. Et si j'ai quelque chose à ajouter, c'est vraiment de dire que ce qui est spécifique peut-être au Canada, c'est vraiment qu'il a fait un projet colonial assez réussi. Il a vraiment réussi habilement vraiment à cacher et rendre toutes ces réalités invisibles. Et pour faire un parallèle assez proche d'ici, je prendrai la Belgique qui a fait figure du pays qui a géré sa colonie comme une simple entreprise commerciale personnelle suite à la conférence de Berlin en 1885. Léopold, en fait, II s'appuie sur une armée de mercenaires, de missions catholiques, un certain nombre d'administrateurs et de colons à sa solde, ainsi que des banquiers belges. de vastes territoires sont concédés à des compagnies privées qui lui versent des redevances dans une extrême violence envers la population indigène. L'histoire nous apprend que ce fut un fiasco, Léopold gérant avidement à son avantage gigantesque patrimoine et le conduisant vraiment à la faillite par la suite. Parce que le royaume de Belgique fut alors le récupérer à son compte en 1908. Par contre, le Canada, vraiment, elle a été fondée dans le même esprit, sans aucune différence, et comme toute entité coloniale britannique, sauf qu'elle a été vraiment conduite avec un grand succès. Vraiment, c'est-à-dire, comme Andréane vient d'expliquer, ça a été construit au prix d'ethnocide réalisé à l'encontre des Premières Nations, sans trop de protestations internationales, et jusqu'à aujourd'hui, on ignore complètement qu'il y avait des nations qui existaient avant au Canada, et qu'il a continué aussi à développer sans arrêt une gestion ouvertement corrompue au départ. Et cet espace de libre-échange permettait à des banquiers et des industriels anglais, écossais, puis irlandais, états-uniens et français de s'y servir allègrement. Le Canada se limitait aussi à gérer des institutions judiciaires qui produisent sans cesse un ensemble de codes voués à justifier le projet colonial. Et pourtant, on continue aujourd'hui à parler du rêve canadien. Et j'ai structuré un peu ma présentation sur trois parties, parce que j'ai essayé de vous parler de plusieurs d'autres parties, mais malheureusement, avec le temps, je ne pourrais pas. J'aurais voulu vraiment vous parler, par exemple, de l'esclavage au Canada, des dépenses militaires aussi, de l'émeute raciale de l'Université de Concordia en 1969 et la crise d'accommodement raisonnable aussi en 2006-2008. Mais il y a aussi par rapport aux femmes domestiques de Philippines et l'exploitation de ces femmes. Mais aujourd'hui, j'ai choisi vraiment de parler uniquement de trois points par rapport au droit de vote des femmes au Canada, qui va nous traduire un peu l'historique aussi de ce racisme d'État, et des politiques d'immigration raciste au Canada, et par la suite, aujourd'hui, un état des lieux à peu près. Donc, si on reprend le droit de vote des femmes au Canada, il n'y a pas très longtemps, en tout cas en 2016, on a célébré le 100e anniversaire du premier droit de vote au Canada, et le gouvernement, à cette époque-là aussi, il a appuyé plusieurs projets, et même il a créé des lignes budgétaires pour la société civile pour célébrer ce moment historique. Mais en aucun moment, on a précisé que cette date ne concernait uniquement les femmes blanches, parce qu'au 100e anniversaire, ça célèbre uniquement l'anniversaire des femmes blanches. Et pour vous donner un peu un portrait par rapport à ça, parce que pour les femmes noires, après l'abolition de l'esclavage en 1834, vraiment, ils ont pris du temps pour qu'ils, eux, elles aussi, et les noirs de façon générale, qu'ils contribuent à ça, et ça a pris à peu près deux années, et ça continue progressivement avec les provinces. Et si on parle pour les Asiatiques, la parle d'un sexe comme de l'autre, vraiment c'est la même chose. Le droit de vote a été obtenu qu'après la Deuxième Guerre mondiale, donc 30 ans après. Ce qui est problématique par rapport à ça, c'est que elle ne reconnaît pas le droit de vote aux personnes d'origine japonaise, chinoise, de même qu'aux hindous. Cette expression qui a été utilisée plus pour toute personne qui vient du sous-continent indien. Et sachant que, par exemple, dans une province qui est la Colombie-Britannique, qui représente 61,7% de sa population d'origine autochtone et chinoise et 29,6% d'origine d'habitants britanniques. Donc, c'était plus la majorité chinoise et autochtone que vraiment britannique. Et malgré tout cela, vraiment, c'était plus... Ils n'avaient pas le droit de vote et tout. Ce déni du droit de vote a d'importantes vraiment répercussions. Parce qu'en vertu de ces législations, les personnes qui exerçaient les professions de pharmacien, avocat, les fonctionnaires municipaux et tout, ils n'avaient pas vraiment le droit d'exercer cette profession uniquement si vous faites partie de cette liste de vote. Donc, même le service militaire ne suffit pas pour ouvrir le droit de vote pour ces personnes. Donc, et pour les autochtones, en fait, ce qui s'est passé, c'est que aussi ça a pris 60 ans pour que les personnes autochtones votent et bénéficient de droits de vote. Pour aller rapidement, en fait, je vais vous parler aussi des politiques d'immigration racistes, qui a commencé en tout cas aussi depuis longtemps, et ça commence surtout avec l'annexion de la 6e province canadienne, qui est la Colombie-Britannique, qui s'est réalisée après promesse de la construction d'un chemin de fer qui est très connu, un chemin de fer transcontinental, et pour le relier de l'Est et à l'Ouest. Et ce qui s'est passé en fait avec cette construction, c'est que vu le manque de main-d'œuvre, ils ont dû embaucher plusieurs et nombreux Chinois. Et plus de 15 000 ouvriers chinois ont été recrutés pour travailler à la construction de chemins de fer canadiens, pacifiques. Et c'est, bien sûr, c'était vraiment dans des conditions très difficiles pour un maigre salaire. Et par exemple, si on prend le salaire d'un Chinois à cette époque, c'était $1 par jour. Et en parallèle, bien sûr, les travailleurs blancs avaient vraiment, ils avaient $3.5 par jour. Et ce qui est problématique, c'est que avec $1 par jour, ils devraient, les travailleurs, ils devraient payer la nourriture, leur campement, parce qu'ils n'avaient pas, bien sûr, un logement, et vraiment ce qu'ils vont manger et tout ce qu'ils vont faire. Les conditions vraiment de travail ont été lamentables. Et les historiens aussi estiment qu'au moins 1000 personnes d'entre eux sont mortes, vu les conditions vraiment aussi du climat. Après, dès que ce grand chantier de construction est fini, en 1885, donc le Canada a changé de politique d'immigration. Et pour freiner l'immigration chinoise, et ce qu'ils ont fait, ils ont mis en place une loi sur l'immigration chinoise qui a été adoptée pour imposer à chaque membre d'une famille chinoise immigrant au Canada de payer $50 de taxes d'entrée, et ce qui vaut environ $1000 à peu près aujourd'hui. Après, ça a commencé à augmenter, $200 et après $500 en 1903. Bien que le gouvernement vraiment a bien profité, en tout cas de collecter 23 000 millions de dollars des Chinois, en 1923, ils ont adopté une autre loi qui exclut aussi les Japonais, les Indiens aussi et plusieurs d'autres communautés. Aujourd'hui, en tout cas, même aujourd'hui, en tout cas, ça continue, les politiques continuent, mais sous d'autres formes. Et ce qui fait aujourd'hui les politiques, c'est que vraiment, c'est de créer vraiment des permis de travail assez temporaires pour que ces personnes, par la suite, se retrouvent dans une situation précaire et restent vraiment sans papier. Et je pourrais le citer récemment, parce que le 13 avril, on a eu une militante vraiment qui a été déportée. Ça fait vraiment 9 ans qu'elle travaille. Elle a commencé par un permis de travail temporaire. Par la suite, elle était vraiment une travailleuse domestique. Elle a continué vraiment à travailler. Ça a pris 9 ans, vraiment. Quand elle a fait une demande pour avoir une résidence permanente, et à ce moment-là, elle a été détenue, restée en otage vraiment pendant 2-3 semaines. Et après, elle a été déportée en 13 avril récemment. Pour vous parler rapidement d'aujourd'hui, malgré en tout cas tout l'héritage colonial du pays et d'une nation basée vraiment sur les races, aujourd'hui, quand on essaye de sonder, par exemple, les Québécois ou les Canadiens, on voit que vraiment le racisme à l'égard des immigrants, des minorités, c'est quelque chose qui n'est pas considéré comme problème carrément. 55% des Québécois vraiment qui disent qu'il n'y a pas un problème carrément vraiment de racisme au niveau par rapport aux immigrants. Et ce qui est intéressant aussi quand on voit une tendance inverse dans le milieu anglophone, c'est que 70% croient que le racisme est un réel problème pour les immigrants. Et pour vous parler en fait récemment de ce qui s'est passé récemment, en fait, je vais vous parler de l'attentat de Québec. Je pense que vous en avez déjà entendu parler. Et vraiment, cet attentat, c'est une fusillade qui a fait 6 morts, 5 blessés et 17 orphelins à Québec. Et le tueur, qui s'appelle Alexandre Bissonnette, c'était un étudiant à l'Université de Laval et qui a été nommé genre comme le petit gars de la place. Et ce qui est problématique, c'est que jusqu'à aujourd'hui, on refuse de considérer ce qui s'est passé à Québec comme acte terroriste. Et même le maire de Québec, il refuse même d'utiliser ce terme parce qu'il dit, en fait, c'est juste un gars qui a un problème de santé mentale et tout. Donc, et par la suite, lorsqu'ils ont couvert, en tout cas, ces événements, je me souviens aussi que sur les chaînes de TVA, une fameuse chaîne au Québec, ils ont parlé même du racisme inversé. Du terrorisme inversé, parce que ça a été considéré, bien sûr, il n'a qu'un seul sens, le terrorisme. Donc, même pour reporter cet événement, ils ont utilisé plusieurs termes qui étaient vraiment problématiques. Et aussi, récemment, on a Pierre Coriolan, c'est un homme noir qui a été abattu par la police en juin 2017. Et dans un très court laps de temps, les policiers vraiment ont usé tous les outils vraiment violents. Et pourtant, c'était vraiment, il vivait tout seul dans sa maison, avec un problème de santé mentale, dans un logement social. Et malgré cela, en fait, vraiment, ça, il a été assassiné avec 6 policiers chez lui, à domicile. Je vais conclure vraiment, parce qu'il faudrait conclure, avec juste quelques chiffres pour vous donner aussi une idée sur les proportions. Les proportions vraiment de policières vraiment par rapport à Montréal. À Montréal, vraiment, on dénombre 235 policiers pour 1000 habitants. Et c'est vraiment Montréal, il est considéré la ville la plus policière. Et ce qui est problématique, c'est que la proportion des policiers ne prend pas en considération vraiment les proportions par rapport au crime, mais plutôt par rapport au nombre de personnes racisées. Et Montréal est considérée la ville la plus policière au Canada. Au cours des 10 dernières années, le nombre des Noirs a particulièrement augmenté de 80% dans les prisons. Et sachant que les Noirs, ils représentent que 10% de la population. Les Autochtones aussi, elle a déjà cité les chiffres. Mais par contre, le nombre des détenus de race blanche a diminué de 3%. Pour même crime, vraiment. Voilà. Et en plus, dans un quartier, je vais finir et conclure par ça, en fait, dans le quartier qui s'appelle Montréal-Nord, qui est très connu à Montréal, où il y a vraiment une majorité de personnes noires aussi, c'est qu'une personne, un jeune homme noir peut être interpellé par la police 5 à 7 fois plus qu'une personne blanche. Donc voilà, et j'aimerais pour conclure vraiment rendre hommage à toutes les personnes qui ont été assassinées par la police à Montréal et au Canada, parce qu'on refuse d'oublier ces noms et leurs histoires. Je vais nommer Anthony Griffin, Alain Magloire, Bonnie Jean-Pierre, Pierre Coriolan, Freddy Villanueva, Anas Benis, et la liste est encore longue, mais clairement, leurs histoires resteront vraiment... Merci. Thank you.